Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mardi Politique. Notre invité ce soir, un ancien ministre, aujourd'hui député maire UMP de Châlons-en-Champagne. Bonsoir Benoît Paru.
Bonsoir.
Dans la seconde partie de cette émission, nous parlerons de votre formation politique. L'UMP doit-elle changer de nom, comme l'a proposé Nicolas Sarkozy? Votre parti est-il aujourd'hui en bonne voie? Quelle doit être sa ligne politique? Voici quelques-unes des questions que nous vous poserons. Il sera également question des primaires. À quel moment Alain Juppé va-t-il se lancer dans la campagne? Vous qui êtes un de ses plus proches soutiens, vous nous en direz plus certainement. Mais avant cela, gros plan sur l'actualité gouvernementale avec le débat autour de la loi sur le renseignement ou encore la réforme territoriale. À mes côtés ce soir pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir Pierre.
Et Alain Onfray du quotidien Libération. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Allez, débutons cette émission par l'annonce hier des chiffres du chômage. 0,4% de hausse au mois de mars, soit 15 000 chômeurs de plus. L'économie repart, la reprise est là, mais elle n'est pas encore suffisante pour faire baisser le chômage. C'est le constat que l'on peut dresser, Benoît Paru.
C'est le constat que l'on doit dresser. Il y a une reprise timide. Et on sait bien qu'en France, à moins de 1,8-1,9 de taux de croissance, on ne réduit pas massivement, durablement, le taux de chômage. Pas tout simplement parce qu'on ne crée pas assez d'emploi. Donc, il y a une timide reprise, elle est trop timide pour générer une baisse du chômage, et les mesures d'accompagnement gouvernemental ne sont pas à la hauteur des besoins de l'économie française. J'ajoute un deuxième problème. N'oublions jamais que 80% du chômage français est un chômage de non-qualifiés. Et donc, on a tout autant un problème de croissance qu'un problème de qualification par rapport à la demande potentielle des entreprises. Si on ne joue pas sur ces deux tableaux, le tableau de la croissance, bien évidemment, parce que sans croissance, pas de création d'activité économique et donc pas de création d'emplois pour remplir les carnets de commandes. Mais en même temps, on a un décrochage de plus en plus des qualifications françaises.
C'est-à-dire qu'il faut travailler sur la formation professionnelle,
bien
par
sûr.
Exemple
C'est un enjeu absolument déterminant, et quasiment tout aussi structurant que celui de la croissance. Je répète, 80% des chômeurs français sont des chômeurs non qualifiés, sont liés à la non-qualification. Ça veut dire quoi? Que les diplômés français, globalement, à évidemment trop d'exceptions près, mais sont en emploi. La difficulté, c'est ceux qui sont peu ou mal qualifiés par rapport aux emplois qui se créent. Et là, on a un décrochage réel, donc on doit agir sur les deux tableaux.
Roselyne Fèvre.
Oui, moi j'ai deux questions dans ce que vous venez de dire. C'est vrai que si la croissance s'améliore, forcément le chômage va finir par diminuer. On est d'accord. Vous parliez de la réforme professionnelle. Est-ce qu'il faut y toucher? Comment? On sait que c'est un fromage, je crois que c'est 35 milliards d'euros. Comment on réforme ce fromage qui va aux partenaires sociaux? Comment on fait?
Alors, on a là encore deux sujets très différents, me semble-t-il. Un, croissance égale potentiellement emploi. La question, c'est comment on crée les conditions de la croissance. Je ne vais pas vous faire la litanie traditionnelle que l'on fait les uns et les autres, mais qui, malheureusement, litanie ne trouve toujours pas son application dans des mesures concrètes du gouvernement. Baisse des charges, TVA sociale, baisse de la dépense publique, parce que sans baisse de la dépense publique, il n'y aura pas de croissance. Bref, il y a tout un pan économique sur lequel il faut travailler lourdement, massivement, rapidement. Le deuxième champ que j'évoquais, c'est celui, effectivement, de la formation professionnelle. Si, aujourd'hui, l'argent de la formation professionnelle, effectivement, autour d'une trentaine de milliards d'euros, n'est pas suffisamment réorienté vers la qualification des non-qualifiés français, nous n'aurons pas structurellement de baisse du chômage. Tout simplement parce que nous aurons une inadéquation totale entre les propositions d'emploi qui seraient générées par la croissance et la capacité des travailleurs français au chômage d'y répondre.
Donc on n'a pas tout essayé, comme dirait François Mitterrand.
C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je pense qu'on n'a effectivement pas tout essayé, c'est clair. En tout cas, on n'a pas, sur le champ économique, pas massivement réformer la France pour pouvoir avoir une croissance durable. Mais une croissance durable ne signifie pas obligatoirement une baisse du chômage. Parce qu'encore faut-il qu'on ait des salariés disponibles, suffisamment formés, pour répondre à la demande d'emploi créée par la croissance.
Allez, Onfray de Libération.
Mais faisons l'hypothèse qu'il y a quand même une baisse de 20.
Tant mieux.
Est-ce que vous le mettrez au crédit des mesures du gouvernement, par exemple sur la compétitivité? Il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Ou bien de toute manière, il est déjà décidé d'ores et déjà qu'ils y seront pour rien.
Je vous dis ça avec un tel sourire que je vois la réponse que vous attendez. Le gouvernement a-t-il fait ce qu'il fallait pour la croissance ? Réponse, non. Vous m'évoquez les questions de compétitivité. On est à quel taux de mise en œuvre du CICE ? 20%, 25%? Et vous allez me faire croire que c'est avec 20-25% d'une petite baisse des charges qu'on va générer de l'emploi et de la croissance ? Réponse, non. L'inconséquence de ce gouvernement sur ce sujet-là est surréaliste. Ils ont supprimé la TVA sociale. Puis finalement, ils se sont dit, oh, c'est peut-être une bêtise, on va faire le CICE. Et François Hollande a eu le culot de nous dire qu'en 2016-17, il transformerait le CICE en une baisse de charges cotisation familiale durable, c'est-à-dire la TVA sociale qu'il a supprimée 5 ans avant. Sincèrement, c'est pas avec ces inconséquences-là qu'on va faire quelque chose. Deuxième exemple, on parlait de la formation professionnelle à l'instant. Je prends un sujet qui n'est pas tout à fait le même, mais pas loin, l'apprentissage. Il y a un an, ils suppriment les crédits d'apprentissage. Et là, ils nous annoncent zéro coût pour les apprentis de moins de 18 ans. Il a fait l'inverse il y a un an. Sincèrement, cette inconséquence économique du gouvernement ne générera pas la croissance. Ce qui va générer un peu de croissance en France, c'est qu'on a une reprise mondiale, notamment américaine, et que on va avoir les effets de la reprise américaine. Je rappelle d'ailleurs qu'en Irlande, qu'en Grande-Bretagne, qu'en Espagne, qu'au Portugal, qu'en Italie, la croissance qui était très largement inférieure à la croissance française il y a deux ans est maintenant supérieure. Et que ces pays-là, qui étaient en situation de crise beaucoup plus dramatique que la France, eux, recréent de l'emploi, pas la France.
Mais néanmoins, Benoît Paru, quand on voit, vous parliez des baisses de charges, le gouvernement a mis des baisses de charges en place avec le pacte de responsabilité, 40 milliards au total.
Pardonnez-moi, non, je vous coupe tout de suite. 40 milliards au total, très bien. En annonce, en discours, dans la vraie vie, dans les comptes des entreprises, est-ce qu'il y a ces 40 milliards? Réponse, non.
Le pacte de responsabilité n'est pas encore totalement
appliqué. J'aime bien tous les engagements qu'il faut, moi. J'aime bien qu'on me dise, en 2016, je vais faire ça, en 2017, je vais baisser les impôts, et en 2018, je ne ferai pas quoi. Ce qui nous intéresse, si on veut que ce soit efficace, c'est que ce soit mis en place. Je peux vous annoncer 300 milliards si vous voulez baisser les charges, si je les fais jamais, ça servira strictement à rien.
L'idée que demandent, par exemple, certains élus de gauche, c'est de dire, il faudrait qu'il y ait des contreparties. On veut bien mettre en place des baisses de charges pour les entreprises, et notamment pour les grands groupes, mais il faudrait qu'il y ait des contreparties en termes d'emploi. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Non.
Pourquoi ?
Pour une raison très simple. Les mêmes nous disent, quand il n'y a pas de croissance, attention, ne serrez pas trop les dépenses publiques, parce que sinon vous allez aggraver la croissance. Et le jour où il y a de la croissance, ceux-là même nous disent, ah, il y a de la croissance, il faut redistribuer les fruits de la croissance, et donc on verra les économies plus tard. Résultat, jamais d'économie. Un exemple. Deuxième élément par rapport à votre question plus précise. Est-ce qu'il faut des contreparties à ces baisses de charges ? La question n'est pas là. Est-ce que oui ou non, les charges françaises sont trop élevées pour que notre pays soit compétitif sur le plan européen ? Si la réponse est oui, les charges sont trop élevées, eh bien il faut les baisser durablement, point. Si on considère que le niveau de charges français n'est pas trop élevé, eh bien à ce moment-là, on ne le baisse pas. Mais pourquoi vous voulez impérativement une contrepartie comme si, par principe, les chefs d'entreprise étaient des voleurs qui allaient se mettre de l'argent dans les poches et qui vont effectivement ne créer aucun emploi?
C'est pas forcément ça. Pierre Gattaz avait dit si on diminue les charges des entreprises de 100 milliards, on propose 1 million d'emplois. C'est ce qu'il avait dit à une époque.
Finalement... Est-ce qu'on a fait les 100 milliards?
Non, on en sera à 40 milliards.
Donc. Non. Vous avez utilisé le terme qu'il fallait bien. On sera... C'est-à-dire, en grammaire, un verbe au futur. Le problème, c'est qu'on sera. Si on y était, ça serait peut-être mieux.
Rosine Fèvre.
Est-ce que vous pensez que c'est une erreur, ou un risque, tout du moins, pour François Hollande, d'avoir lié la baisse du chômage à une...
lier sa candidature à la baisse du chômage.
Oui, voilà. Vous le dites mieux que moi. Bravo.
Je pense que l'erreur de cette formule, c'est de paraître totalement obnubilé par la campagne présidentielle par 2017. Cette formule répétée deux ou trois fois montre une chose. François Hollande, et objectivement comme beaucoup d'hommes politiques, ne pense qu'à une seule chose, sa réélection. Et il gouverne en fonction de ça, sa réélection. Et le drame de la vie politique française, au-delà même de François Hollande, c'est que la plupart des hommes politiques qui ne sont pas nécessairement des hommes d'État pensent intérêt électoral avant de penser intérêt général.
Oui, mais enfin là, si
ce dont nous aurons besoin à un moment ou un autre, là, c'est d'avoir des hommes politiques désintéressés.
On sent que vous allez nous parler d'Alain Juppé à un moment ou un autre. Là.
Je n'ai strictement rien dit tel. Je vous laisse en tirer les conséquences.
Oui, mais
que
en
vous
l'occurrence,
souhaitez.
Là, on imagine bien qu'il aura du mal à faire baisser le chômage, donc c'est un risque qu'il prend qui est grand.
Enfin, il fait ce qu'il veut, il est grand. C'est un homme politique averti, il a été élu président de la République, donc il a de l'expérience politique. S'il veut lier son sort à la baisse du chômage, c'est son choix, c'est son droit. Ce qui me terrorise, c'est qu'il veut baisser le chômage, non pas parce que c'est nécessaire, non pas parce que c'est bien pour le pays, mais parce que ça lui permettra de se représenter. Ça, ça me pose problème.
Allez, on fait rapidement une dernière question
juste,
sur
au
ce
passage,
sujet-là.
Je note juste qu'avec votre remarque, vous semblez donner raison à une thèse qui est développée par plusieurs de nos collègues en ce moment et qui dit que l'élection présidentielle au suffrage universel, c'est un poison. Je sais pas, vous avez eu dans notre démocratie, dans notre système politique français, vous êtes sensible à ces remarques-là?
Non.
Non.
Pour une raison très simple, on reviendra dessus? Que ce soit bien ou mal, on reviendra dessus? Non. Bon, ben voilà, le problème est réglé. Donc on peut effectivement ergoter les uns et les autres sur des hypothèses potentielles en se disant que constitutionnellement, en théorie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On reviendra jamais dessus. Point, le problème est réglé.
Allez, on laisse là le sujet du chômage, on y reviendra peut-être en fin d'émission, mais on va essayer de parler maintenant un petit peu de la politique gouvernementale avec un texte qui suscite beaucoup de débats, la loi sur le renseignement qui sera soumise au vote des députés mardi prochain, texte dangereux, liberticide pour certains députés de gauche mais aussi de droite. Vous comprenez ces craintes, Benoît Apparu ?
Je comprends ces craintes parce que c'est des sujets excessivement complexes sur le plan technique de mise en œuvre du renseignement et puis sur le contrôle qui est exercé soit pour autoriser, soit post-interception de voilà, donc c'est techniquement relativement complexe. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on a besoin, un, de donner un cadre juridique qui n'existe pas pour l'instant à ce qu'on appelle les interceptions. Premier point. Deuxième point, on a, entre les lois existantes sur ces questions-là, le cadre juridique existant sur ces questions-là, et aujourd'hui, des évolutions technologiques, notamment numériques, absolument gigantesques et exceptionnelles, qui modifient complètement le cadre existant. Et donc, on a besoin d'avoir un cadre juridique. Deuxième point, on ne peut pas, les uns et les autres, me semble-t-il, pointer du doigt des failles du renseignement au mois de janvier 2015, réclamer effectivement des moyens nouveaux pour le renseignement français, y compris technologiques, en matière d'interception. Et puis dès que l'émotion collective s'est un peu estompée sur ce qui s'est passé au mois de janvier, reprendre nos bonnes vieilles guéguerres pour savoir si c'est liberticide ou pas liberticide. Moi, j'ai le sentiment que nous avons effectivement des risques nouveaux, qu'il faut en prendre la mesure, qu'il faut se donner les moyens technologiques, mais juridiquement contrôlés, comme c'est le cas, me semble-t-il, dans ce texte de loi, et en tirer toutes les conséquences, c'est-à-dire, pour ce qui me concerne, plutôt voter en faveur.
Mais là, si on schématise un petit peu ce projet de loi, on va légaliser les pratiques d'écoute qui étaient jusque-là considérées comme illégales. Ces écoutes devront être validées par le Premier ministre sur avis consultatif d'une commission, sans que la justice n'ait son mot à dire. Est-ce que c'est pas un petit peu gênant, tout de même ?
Gênant ou pas, j'en sais rien. À titre personnel, je ne le crois pas. Là encore, je veux bien qu'on saisisse un juge de chacune des écoutes. Mais si vous imaginez que les services secrets qui sont en surveillance sur du risque potentiel...
En même temps, on ne fait pas des millions d'écoutes non plus par an.
J'entends bien, mais qu'on soit bien d'accord techniquement parlant. Qu'un juge intervienne lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, c'est légitime. Si demain, un juge intervient sans procédure judiciaire, en droit, ça voudra dire quoi ? Qu'il interviendra sur un plan administratif, pas sur un plan judiciaire, parce qu'il n'y aura pas d'enquête judiciaire ouverte. Dans les affaires de terrorisme, vous êtes dans la suspicion, vous êtes dans la surveillance d'individus potentiellement dangereux. Si bien là qu'il y a des failles potentielles sur le plan du droit, parce que traditionnellement, la justice comme les écoutes ne peuvent intervenir que lorsqu'il y a des faits avérés. C'est pas le cas dans les procédures de terrorisme, puisqu'on est en suspicion de personnes identifiées comme potentiellement dangereuses qu'il faut surveiller. Et donc l'intervention judiciaire ne me paraît pas obligatoire en la matière. Je rappelle par ailleurs que la composition de la commission à laquelle vous faites allusion répond, me semble-t-il, à cette demande.
Allez, Onfray.
Certains de vos amis parmi les jupéistes, il me semble, sont de ceux qui s'interrogent. Vous pensez vraiment qu'avec, dans l'état actuel, le texte nous met à l'abri de dérives à l'américaine, de collecte massive de contenu, comme on en a vu?
Le Patriot Act.
J'ai le sentiment que oui. Mmh. J'entends les interrogations d'un certain nombre de mes amis. Je pense à Édouard Philippe, par exemple, qui est effectivement beaucoup plus en retrait sur cette question-là, comme quoi, pas forcément tous d'accord, surtout en permanence. Mmh. C'est pas grave, je dirais même tant mieux. Moi, j'ai le sentiment que la démocratie française, dans son fonctionnement, est à l'abri d'une dérive à l'américaine et est à l'abri d'une dérive à la Mitterrand.
Il y a d'ailleurs la saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République. J'imagine que ça vous
satisfait. Ça me rassure qu'effectivement le Conseil constitutionnel soit saisi. Nous l'aurions fait, mais ça me rassure que le président de la République, qui peut s'interroger lui-même, saisisse le Conseil constitutionnel. En tout cas, ça me rassure. On aura la position officielle de la plus haute instance juridictionnelle française et qui effectivement se posera les questions notamment que vous avez évoquées qui sont effectivement très complexes hein, sur le plan du la légitimation d'une interception sur suspicion est quelque chose de complexe. La question la plus compliquée qu'on va avoir à traiter, me semble-t-il, sans faire trop de détails techniques, c'est toutes les questions liées, on s'en souvient peut-être sur d'autres affaires judiciaires, à la technique du filet. C'est-à-dire, j'ai une écoute sur un sujet et je découvre des milliards d'autres choses.
Oui, les filets dérivants.
Les filets dérivants, comme on dit. Bon, il y a des questions par rapport à ça qui sont évidemment tout à fait légitimes. Je pense que nous avons principalement besoin de renforcer notre arsenal juridique en la matière pour sécuriser ses écoutes.
Mais en faisant ça, est-ce qu'on donne pas un poids un petit peu démesuré aux services de renseignement quand on voit ce qui s'est passé à l'analyser avec la NSA aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne où les services de renseignement allemands sont soupçonnés d'avoir fait écouter des grandes firmes européennes et peut-être aussi des responsables politiques français, c'est grave, non, tout ça?
C'est très grave ce qui s'est passé avec la NSA et ce qui semble-t-il, parce que c'est pas encore totalement confirmé, même si des proches d'Angela Merkel semblent avoir confirmé les choses. C'est effectivement grave. Je pense sincèrement que la démocratie française est aujourd'hui en mesure d'éviter ce genre de dérive. On parle de la NSA, on parle de Angela Merkel, on peut parler du Parti Socialiste. Je rappelle quand même que les seuls qui, depuis une trentaine d'années, ont utilisé des techniques de renseignement de façon totalement illégale, c'est le PS avec l'affaire Mitterrand. Bon. On s'en rappellera tous. Donc, je pense que avec ce type d'affaires-là, dans notre passé récent, nous en avons tiré les uns et les autres un certain nombre de leçons, et que la démocratie française, aujourd'hui, est suffisamment bien organisée et solide pour accepter un peu plus de pouvoir au service de renseignement, sans remettre en cause les libertés publiques.
Donc, vous êtes rassuré, vous êtes persuadé aujourd'hui que, par exemple, les services de renseignement français n'espionnent pas des grands groupes étrangers, voire des politiques d'autres pays?
Je suis d'un naturel confiant et optimiste. Et donc, je ne vois pas, par principe, le mal partout. Et donc, j'ai confiance dans nos services de renseignement. On ne peut pas, là encore, voter une loi de programmation militaire qui renforce, sur le plan financier, le renseignement. On ne peut pas avoir des analystes spécialisés dans les questions du Moyen-Orient, de la bande sahélienne, nous dire que notre principale faiblesse actuellement, c'est le renseignement, et ne pas en tirer les conséquences sur le plan de la sécurité du territoire national, des Français et nos soldats en situation extérieure.
On note que dans ce projet de loi, on terminera là-dessus, hein, ce projet de loi sur le renseignement, un statut de lanceur d'alerte a été créé pour protéger tout agent du renseignement qui viendrait à dénoncer l'utilisation de pratiques illégales après l'affaire Snowden. C'est une évolution incontournable aujourd'hui?
Je le crois, oui.
C'est très important d'avoir quelqu'un comme ça, même si apparemment certains agents du renseignement n'ont pas dit à une époque qu'il y avait par exemple cette plateforme nationale de cryptage et de décryptement qu'a révélé le journal Le Monde il y a 10 jours.
J'entends bien, mais là encore, enfin, on peut pas non plus demander aux renseignements français, américains, allemands ou d'où vous voulez de mettre sur la place publique tout ce qu'ils font, parce que sinon ça s'appelle plus du renseignement, ça a besoin d'un minimum de discrétion quand même. La question, c'est comment on arrive à articuler un contrôle suffisamment puissant pour qu'on n'ait pas une agence qui s'autorise à faire des choses sans que le pouvoir politique ne soit au courant. La question, c'est le contrôle de l'agence de renseignement. Si nous avons un pouvoir politique puissant, ça marchera.
Merci Benoît Apparu, c'est la fin de la première partie de Mardi Politique. Ça passe très vite, on va se retrouver dans un petit peu plus de 3 minutes, juste derrière le flash. À tout de suite.
Mardi. Mercredi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Pierre Firsion.
La seconde partie de Mardi Politique, notre invité ce soir, le député UMP Benoît Apparu. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à la menace terroriste en France. On voit qu'elle est toujours aussi forte, avec cet attentat déjoué la semaine passée. Pour votre collègue Christian Estrosi, pas de doute, la Troisième Guerre mondiale a commencé, une guerre que l'islamo-fascisme aurait déclarée à la civilisation judéo-chrétienne. On l'écoute.
Aujourd'hui, je veux le dire, c'est tous les Français d'ailleurs qui sont menacés. C'est la civilisation judéo-chrétienne dont nous sommes les héritiers aujourd'hui qui est menacée. Ce sont également tous ceux qui appartiennent à d'autres religions, et je pense à une immense majorité de musulmans de France qui aujourd'hui placent les lois de la République au-dessus des lois religieuses et qui viennent essayer de nous trouver en refuge parce qu'ils se sentent menacés par ce que j'appelle l'islamofascisme, qui a décidé que ce soit dans l'État islamiste, en Irak, en Syrie et ailleurs, mais aussi à travers les cinquièmes colonnes et ces réseaux infiltrés dans nos caves, dans nos garages, dans
vous
les lieux clandestins.
Vous y allez fort, cinquième colonne.
Oui, j'y vais fort. C'est une Troisième Guerre mondiale qui nous est déclarée aujourd'hui.
Troisième Guerre mondiale, cinquième colonne, islamo-fascisme. Vous partagez ce vocabulaire et ces idées, Benoît Apparu ?
Je ne suis pas convaincu de partager ce vocabulaire que pour une partie d'entre lui, le Premier ministre, partage. Puisqu'il a utilisé, je crois, le terme d'islamo-fascisme.
Mais cinquième colonne et la Troisième Guerre mondiale
Je n'utiliserai pas ces termes-là et je ne les partage pas. Là encore, attention aux confusions. Je ne crois pas à l'idée de la guerre des civilisations. Pourquoi ? Parce que je reste intimement convaincu que l'islam n'est pas en guerre contre le judaïsme et que l'islam n'est pas en guerre contre le christianisme. Que nous ayons de pseudo-représentants de l'islam, ultra-fanatisés, ultra-minoritaires, qui aient déclaré la guerre à la grande majorité des musulmans, aux juifs et aux chrétiens, oui, évidemment. Et donc qu'il y ait des terroristes qui, au nom de l'islam, pratiquent le terrorisme, c'est une réalité que nous devions combattre avec la plus grande fermeté, j'allais utiliser violence s'il nécessaire, ces terroristes, oui. Mais attention à ne pas faire de confusion dans des situations comme celles que nous connaissons sur le plan de la sécurité, sur le plan social. Avec 0% de croissance et un chômage durable, porté à l'idée que nous serions dans une guerre des civilisations ou dans une troisième guerre mondiale, me paraît risqué sur le plan de la cohésion nationale.
Pourquoi ?
Et donc je n'utiliserai pas ce type de vocabulaire-là, parce que je crois qu'il nous faut être précis, juste, et essayer d'être mesuré sur ces questions. Je sais que nous, hommes politiques, comme vous, journalistes, on aime bien ces grandes déclarations fracassantes avec des mots qui vont faire des dépêches AFP et des tweets qui vont faire de la reprise. Preuve en est sur les déclarations de Christian Estrosi. Je crois que sur ces sujets-là, la mesure, la nuance est indispensable si on souhaite pointer le mal, parce qu'il existe, mais en même temps être juste et nuancé par rapport à la réalité des choses.
On voit bien la stratégie de Christian Estrosi qui est en campagne, en PACA, face à Marion Maréchal-Le Pen. Il veut être sur une ligne extrêmement à droite. Est-ce qu'on joue pas, en utilisant de tels termes, un jeu assez dangereux tout de même ?
J'évoquais tout à l'heure le fait que, malheureusement, trop souvent, l'intérêt électoral peut prendre le pas sur l'intérêt général. Pas tout à fait impossible que certains à droite et que certains à gauche joue ce type de registre-là. C'est dommage.
Et ça vous inquiète pour votre famille politique ?
Ça m'inquiète globalement pour l'ensemble de la classe politique française, parce que c'est malheureusement pas propre à notre famille politique, l'UMP. D'autres le font, d'autres circonstances.
Pour vous parler de Christian Estrosi, il avait été dit que ce serait fini avec les nominations au sein de l'UMP par le haut, c'est-à-dire que l'établissement en gros nomme ceux qui seront tête de liste et que tout se fera dans la transparence avec les militants. On a vu que là Christian Estrosi avait été parachuté, nommé pour être tête de liste sans accord préalable.
J'avais cru comprendre, comme vous, qu'il y avait effectivement un vent de démocratie et de transparence qui allait souffler sur les MP. J'imagine qu'on va considérer que c'est l'exception qui confirmera la règle.
Mmh. Mmh. Bon, on verra.
On va avancer un petit peu, on va en venir, si vous le voulez bien, maintenant, on va continuer à parler de l'UMP. On reparlera peut-être d'ailleurs un petit peu de Christian Estrosi, du moins du positionnement des sarkozistes. On va en venir au nouveau nom de l'UMP. Hein. Votre formation politique va sans doute donc changer de nom, c'est du moins le souhait de Nicolas Sarkozy. L'UMP deviendrait les Républicains. On ne vous semble pas vraiment convaincu par cette nouvelle appellation?
Je suis pas convaincu par cette nouvelle dénomination. Et avant de se poser la question du mot qui sera utilisé pour désigner notre parti politique, c'est les raisons pour lesquelles on le fait. Quand une entreprise, une association, un média, un parti politique change de nom, c'est qu'en général, il y a un projet nouveau qui doit s'incarner dans un nouveau nom. Quand, par exemple, en 1976, Jacques Chirac crée le RPR, c'est qu'il veut constituer une famille politique qui sera globalement dans l'opposition par rapport au président de la République du moment. Et donc, il veut l'incarner par un nouveau nom. Quand on veut réunir la droite et le centre, toujours sous Jacques Chirac d'ailleurs, en 2002, et mettre fin à ce combat fratricide entre les centristes et le RPR, ben, qu'est-ce qu'on fait ? À ce moment-là, on a une nouvelle formation politique qui s'incarne dans un nouveau nom. Changer de marque, c'est pas juste pour changer de nom, c'est pas juste pour utiliser un autre mot. Ça doit, me semble-t-il, refléter une évolution stratégique que je ne vois pas, aujourd'hui pour l'UMP.
Vous pensez pas que le nom de l'UMP avait été un petit peu, on pourrait dire, décrédibilisé par l'affaire Big Malion, par la lutte fratricide entre Jean-François Copé et François Fillon?
Je suis pas convaincu du tout qu'un changement de nom réglera cette question-là.
Alors, est-ce que c'est pas plus symbolique? Parce que dans le fond, c'est Alain Juppé qui avait créé l'UMP. C'est lui qui...
En 2002.
Je pense qu'on est dans une forme de tradition gaulliste ou bonapartiste. Quand vous prenez l'histoire de la Ve République, chaque personnalité importante qui a voulu être président de la République a voulu avoir un parti à sa main. J'allais dire à sa bosse, c'était pas très gentil. À sa main. Charles de Gaulle avait son parti dédié à sa cause, Georges Pompidou, idem, Jacques Chirac, idem, Nicolas Sarkozy, idem avec l'UMP, et Nicolas Sarkozy, pour son retour, veut avoir un parti politique qu'il aura créé avec une dénomination qui lui est propre.
Une dénomination qui lui est propre
pour effectivement essayer de dominer l'élection présidentielle. Et c'est cette tradition gaulliste dans nos fonctionnements qui est en fait notre parti politique dans son ADN ne sert qu'à une chose, porter son président à la présidence de la République. C'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle dans nos statuts, il est prévu que si nous avons un président de la République, il ne peut pas y avoir de président du parti politique. Parce que c'est notre ADN, notre fonctionnement. Sauf que, de mon point de vue, les primaires changent tout. Et qu'à partir du moment où ce sont les primaires qui désignent le candidat à l'élection présidentielle, et ce n'est plus mécaniquement le président de notre parti qui désigne, enfin qui est le candidat à l'élection présidentielle, il eût fallu se poser juste une question. À quoi sert un parti de fonctionnement bonapartiste ou gaulliste dès lors qu'il y a des primaires?
Allez, Onfray.
Manifestement, Nicolas Sarkozy ne s'est pas posé cette question. Ou plutôt...
C'est son choix et c'est son droit. Et jusqu'à preuve du contraire, n'oublions pas quand même qu'il a été élu sur un programme par les militants et que dans son programme, il y avait les changements de nom. Donc il n'y a rien à lui reprocher.
Il y a aussi la démocratie militante, comme vous l'avez dit vous-même. Est-ce que vous pensez, comme Édouard Philippe nous le disait dans Libération la semaine dernière, que sur cette question-là, il conviendrait d'interroger les militants et pas dans une seule question qui serait massive, la question des statuts globales, et on répond par ils sont bien ou ils sont pas bien, mais la question spécifique du nom de l'organisation?
Alors, j'ai écrit à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était en charge, comme vous le savez, de la réforme des statuts, pour lui demander que sur les 3-4 questions qui vont bouger un peu les choses, un peu les lignes, pas massivement, mais un peu les lignes sur le fonctionnement de l'UMP, on puisse avoir un vote par question plutôt qu'avoir un vote global des statuts. Ça incluait évidemment la question du nom.
Et les deux autres?
Il y a 2-3 autres questions.
L'élection
Est-ce qu'il faut un bureau politique à 40 ou à 80 membres? Aujourd'hui, c'est prévu à 80, semble-t-il. À 80, ça paraît plutôt une assemblée qui écoute qu'une assemblée qui discute. À 40, ça paraît plus ouvert à la discussion. Il y a la question des présidents de fédérations départementales. Est-ce qu'ils sont, comme aujourd'hui, élus par un comité départemental ou par l'ensemble des militants? il est prévu par l'ensemble des militants, ce qui me paraît plutôt une bonne chose. Mais à ce moment-là, j'ai un problème. Parce qu'on a une autre personnalité départementale qui, lui, serait nommée exclusivement par le président de l'UMP. Donc on va avoir une espèce de hiérarchie de pouvoir dans nos fédérations qui me paraît pas forcément une bonne chose. Donc 3-4 questions relativement techniques, hein, ça change pas fondamentalement la face du parti, mais quelques questions comme ça, qui suscitent débat, qui suscitent questions, mais puisqu'on veut de la transparence, puisqu'on veut de la démocratie, puisqu'on veut, me semble-t-il, je l'ai entendu à plusieurs reprises, c'est même marqué maintenant dans les statuts, faire appel aux militants sur plein de votes, régulièrement par Internet, ben profitons-en, commençons par les statuts.
On a l'impression quand même que sur ce nouveau nom, les proches d'Alain Juppé ont lancé une petite offensive là récemment avec Gilles Boyer, Édouard Philippe, vous-même. Est-ce que vous n'avez pas démarré un petit peu trop tard pour remettre en cause le principe d'un changement de nom, même si c'est vrai que les sondages, a priori, seraient plutôt en votre faveur, puisque 56% des sympathisants, enfin des militants plutôt UMP, ne veulent pas d'un changement de nom.
Je ne sais pas si c'est une offensive. En tout cas, effectivement, elle est petite, parce que par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer juste avant, ce sont quand même des questions très secondaires, pas insignifiantes, mais très secondaires, symboliques, de cuisine interne. Donc n'en faisons pas l'alpha et l'oméga de la rentrée de Pâques, de la vie politique française.
C'est pas ça. La première bataille du match entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy.
C'est pas une bataille, ce sont des interrogations qui sont légitimes. Nous sommes dans un parti libre, où chacun, je crois, a le droit de dire ce qu'il pense dès lors qu'il ne remet pas fondamentalement en cause l'unité du parti. C'est ce que nous faisons, nous en avons discuté les uns et les autres, effectivement, autour d'Alain Juppé, avec Édouard Philippe, avec Gilles Boyer, avec Hervé Guémard et avec d'autres, pour s'interroger sur ce qui était le mieux pour notre formation politique. Il se trouve qu'on la connaît un petit peu, puisqu'Alain Juppé en a été le créateur, donc effectivement, on a peut-être 2-3 idées dessus, qui sont pas tout à fait insignifiantes. Là encore, on a eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises avec Nicolas Sarkozy, notamment sur les statuts. La seule discussion, pour l'instant, qui n'a pas commencé, c'est celle sur le nom. Donc je sais pas si c'est trop tard ou pas, mais pour l'instant, en commission des statuts ou en bureau politique, il n'y a pas encore eu, officiellement,
a priori, ce sera la semaine prochaine. Ça sera au bureau politique la semaine prochaine.
A priori, vous le dites, je l'entends bien. Donc, je ne sais pas si on est parti trop tôt ou trop tard. Mais pour l'instant, il n'y a jamais eu sur la table le mot que vous évoquez tous, les Républicains, qui est pour l'instant une fuite, entre guillemets, de journalistes, évoquée par les journalistes. Mais officiellement, nous n'avons jamais eu à l'ordre du jour du bureau politique de l'UMP. Ou alors, dans un courrier quelconque, dans une adresse quelconque aux militants, l'idée que ce mot, les Républicains, pourrait devenir notre nouveau nom. J'ajoute un dernier point, une analyse que j'ai lue, je crois, dans un très bon journal, non pas du soir, ce qui est la formule traditionnelle, mais du matin, sous la plume d'un excellent journaliste.
Ça sent du Alain Onfray, ça.
Qui a un double A. de toute façon, ce mot, les Républicains, ne tiendra pas.
Pour quelle raison ?
En 3 semaines, en 3 mois, vous aurez un acronyme qui le remplacera. Je vous rappelle que François Bayrou avait essayé de lancer le mouvement des démocrates. C'est pas lui qui a créé l'acronyme, le MoDem. Mais cet acronyme est devenu tellement usuel que c'est devenu le nom du parti. Eh ben, vous verrez que les Républicains deviendront les REP, deviendront je ne sais quel acronyme, mais que vous n'aurez jamais Benoît Apparu, député, entre parenthèses, les Républicains de Châlons en Champagne. Vous ne l'aurez pas, et très vite, ce mot sera acronymisé.
Vous allez dire que la SNCF est restée la SNCF.
C'était la Société nationale des chemins de fer français.
On dira ex-UMP vraisemblablement. Benoît Apparu.
C'est pas impossible.
Ex-UMP. Le fait que Nicolas Sarkozy, vous l'avez évoqué, mais ça quand même, ça mérite qu'on y revienne, que ce sujet n'ait été évoqué à aucun moment en bureau politique, ni dans aucune instance du parti, mais seulement, ça on a cru comprendre, entre Nicolas Sarkozy et ses 3 ou 4 plus proches conseillers, est-ce que ça pose pas quand même un petit problème ?
Je le crois pas que ça pose problème de ce point de vue-là. Là encore, Nicolas Sarkozy me semble légitime à vouloir changer le nom. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu mandat pour ça. Dans la campagne qu'il a faite pour la présidence de l'UMP, ça n'a pas été un petit sujet le changement de nom. Il l'a dit très clairement qu'il allait changer le nom du parti politique. C'est pas quelque chose qui est arrivé après. Donc il a reçu mandat des militants, des électeurs pour changer le nom. Donc là, sa volonté de changer le nom est légitime. Par contre, le choix, bah, ça peut donner lieu à discussion. Mais sa volonté de changer de nom ne me pose aucun problème. Il a reçu mandat pour se faire.
Rosine Fèvre.
Vous avez été jeune ministre de Nicolas Sarkozy. On voit bien dans votre discours que vous êtes pragmatique, réaliste. Pourquoi vous avez, dans le fond, choisi Alain Juppé ? qui incarne,
parce
on va
que
dire,
je suis
plus
pragmatique, réaliste. Voilà, vous non, avez dans la question
quelque
la
chose de plus conservateur, on va dire,
je ne crois
dans l'imagerie
pas.
Politique.
Je pense que Juppé est tout sauf conservateur. Et je pense que vous le verrez dans les semaines et les mois qui viennent. Enfin, prenons un exemple sur les sujets sociétaux. Combien d'hommes politiques de droite, et on lui a reproché, ont eu sur, par exemple, la question de l'adoption par les homosexuels, des positions comme celle qu'a eu Alain Juppé? Vous appelez ça du conservatisme? Ben, pas moi.
Non, enfin, il n'était pas clair. Enfin,
il a été très clair. Non, mais... Il a été très clair dans les Incorruptibles, d'une clarté absolue, en disant, oh oui, je crois possible que deux homosexuels adoptent des enfants, et je ne reviendrai pas là-dessus.
Il a dit qu'il s'était fait violence pour...
Parce qu'il a réfléchi, parce qu'il y a pensé, enfin, et parce qu'effectivement, c'était pas forcément sa culture originelle, mais qui s'y est... qu'il accepte aujourd'hui cette position-là, pardonnez-moi de vous dire
parce que
dans les grands leaders...
Parce qu'il s'est converti au pragmatisme.
J'en sais rien. Mais en tout cas, dans les grands leaders de droite, sur ce sujet-là, sur cette question-là, on ne peut pas dire que c'était le plus conservateur.
Vous savez bien qu'on ne peut pas revenir en arrière sur une telle mesure.
Mais peut-être. Il n'en demeure pas moins que tous les hommes politiques de droite, ou la plupart d'entre eux, oublient la question ou nous disent qu'il faut revenir dessus. Bon, pas lui. Donc, effectivement, ne crois pas du tout qu'il soit conservateur. Et vous verrez que sur l'ensemble des grandes questions économiques, sociales, sociétales, il ne sera pas conservateur.
Donc ça veut dire qu'il a changé, Alain Juppé ?
Non, ça veut dire que Alain Juppé est plutôt, de mon point de vue, mais je le défends, donc je suis pas forcément objectif, Alain Juppé est, je crois, l'archétype de ce qu'on appelle un homme d'État. Beaucoup plus qu'un homme politique. Alain Juppé préfère l'exercice du pouvoir à la conquête du pouvoir. Or, les hommes politiques français traditionnels sont bons dans la conquête, ils sont dans cet exercice-là, et notre métier malheureusement est quasiment devenu gagner les élections.
Pour être un
et d'ailleurs
homme
dans la tête des Français, les Français considèrent que notre métier c'est de gagner les élections. Or, nous sommes là principalement pour gérer une collectivité locale ou un pays, c'est-à-dire pour exercer le pouvoir. Alors pour exercer, il faut d'abord conquérir, certes, mais c'est secondaire. Et donc Alain Juppé, pour moi, est l'archétype de ces hommes d'État, c'est-à-dire qu'il est sérieux, pragmatique et nuancé. Et quand on dit nuancé, ne confondons pas nuancé et mou. Nuancé, ça veut dire que le monde est compliqué et que les réponses simples ou simplistes, les slogans de campagne électorale et d'estrade, c'est très bien pour gagner les élections. C'est sûrement très efficace, mais c'est pas comme ça qu'on gouverne intelligemment.
Il nous reste un petit peu plus d'une minute. Benoît Paris, vous allez nous donner un scoop, là, je le sens. Quand est-ce que Alain Juppé va se lancer dans cette campagne des primaires? Je me suis laissé dire qu'il pourrait faire ses premières propositions au mois de juin.
Alain Juppé s'est lancé dans cette campagne. Je vous rappelle qu'il a annoncé sa candidature
au mois d'août. Mais on
au mois d'août. Premier élément, qu'il a commencé un certain nombre de déplacements, qu'il a réuni un certain nombre de groupes de travail, 16 pour être très précis, qui sont en train effectivement de phosphorer. Mais permettez-moi de vous dire la chose suivante. Notre calendrier, c'est notre calendrier. Alors, vous êtes pressé, tant mieux, ça veut dire qu'il y a une attente, mais c'est pas parce que vous êtes pressé d'avoir dès demain matin des propositions que vous les aurez demain matin. Je vous rappelle que la primaire, c'est dans 18 mois.
Mais alors, donnez-nous un calendrier.
Vous avez le droit de savoir. Vous avez envie de savoir. C'est légitime. Savoir. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que nous connaissons suffisamment bien la presse pour savoir que si demain matin, on vous donne un programme joliment fait, dans 6 mois, vous nous direz qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre truc. Bon, on a bien entendu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que vous avez pour cette campagne électorale de nouveau? Le reste, vous n'avez déjà dit il y a 6 mois. Il y a 18 mois avant la primaire, c'est très long. Et donc, il faut une montée en puissance qui soit bien gérée, bien traitée. Il faut trouver l'équilibre entre la nécessité, effectivement, d'avancer un certain nombre de propositions. Mais là encore, on n'avance pas des propositions pour faire plaisir aux sondages, aux journalistes ou aux Français. On veut qu'elles soient mûries, pesées, réfléchis, et qu'ensuite, elles correspondent à notre attente.
Eh bien, merci Benoît Paris, on en restera sur ces mots. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Le socialiste Christian Paul sera à votre place mardi prochain. Mathias Golchani était ce soir à la réalisation de Mardi Politique, émission préparée par Audrey Atoni. Merci à eux deux. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à même antenne, même heure. Bonne semaine à tous à l'écoute de la Radio du Monde.